Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Ils sont jeunes et l'Europe leur appartient. À quelques semaines des élections européennes, qu'attendent-ils de l'Union européenne? Et d'abord, en attendent-ils quelque chose, sachant que 74% des 18-24 ans disent qu'ils ne voteront pas le 26 mai prochain. Et le 26 mai, c'est en France le jour de ces élections européennes. Ce qui, paradoxe ou non, ne les empêche pas de se sentir très européens. Le réchauffement climatique est-il leur priorité, comme semblent l'indiquer les enquêtes d'opinion? La génération Erasmus connaît-elle les autres pays européens? La montée des populismes et la tentation des pouvoirs autoritaires de par le monde les inquiètent-ils? Perçoivent-ils l'Europe comme une chance ou une contrainte? Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder avec six jeunes européens. Je vous les présente. Bonjour Maria Popchik.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes franco-polonaise et membre du mouvement des jeunes européens. En deux mots, le mouvement des jeunes européens.
Oui, alors les jeunes européens en France sont une association de jeunes de 16 à 35 ans qui s'engagent pour
On peut être jeune très longtemps.
Très longtemps, oui. On s'engage pour une Europe proche des citoyens, plus démocratique et à terme fédérale, à travers des actions pédagogiques, de sensibilisation et des débats pour mettre l'Europe au cœur du débat des jeunes.
Corinne Erdrich dit bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes étudiante grecque. Bonjour en grec. Kalimera.
Kalimera.
Asdine El Mourabeh, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant français dans quelle université?
Vitamus Paris 13.
Paris 13. Christine Borrestom-Le Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante franco-suédoise, plutôt française ou plutôt suédoise?
Plutôt suédoise.
Plutôt suédoise, ça tombe bien. Niklas Mansch, bonjour.
Bonjour.
Guten Tag.
Guten Tag.
Vous êtes étudiant allemand, jeune ambassadeur franco-allemand de l'OFAGE. L'OFAGE, c'est l'office franco-allemand de la jeunesse, mais qu'est-ce que c'est un peu, en quelques mots?
Ça a été créé en 1963 pour la réconciliation des jeunes et des peuples en France et en Allemagne.
Évidemment, au lendemain de la guerre. David Basso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant franco-italien et très, très italien. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre rencontre, j'ai envie de vous demander que vous m'exprimiez d'un mot, mais d'un mot seul, votre rapport à l'Europe, chacun son tour. Et on commence par Niklas. Pour vous, l'Europe, c'est d'abord, en un seul mot,
la liberté.
Maria Popchik.
Pour moi, c'est un réseau.
C'est un réseau. Ah, on essaiera de développer. Corinne Adristi.
Pour moi, ça me fait penser à l'unité, ou sinon le rapprochement au moins.
Asdine El Mourabeh.
Ah, c'est très simple, pour moi c'est un continent avant tout, l'Europe.
Un continent, ah oui, c'est sûr. Mais un continent de quoi?
D'union, mais pas toujours.
Pas toujours, d'union et de désunion. Christine Bostrom.
Oui, moi je dirais aussi l'unité, mais aussi la bureaucratie.
La bureaucratie, David Basso.
Moi je dirais identité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que l'identité, c'est à la fois ce qui fait l'Europe et ce qui la divise. C'est-à-dire que c'est un peu le problème principal qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est de savoir est-ce qu'on a une identité commune ou est-ce qu'on a envie d'en forger une nouvelle.
Est-ce qu'il y a une identité européenne? Peut-être qu'on aura l'occasion de creuser cette question. Pour la question suivante, écoutez bien.
Populisme, nationalisme, égoïsme, l'Europe est-elle à bout de souffle?
Alors, l'Europe a été créée il y a 70 ans à peu près, au lendemain de la guerre. Une grande idée, installer la paix sur un continent qui avait été meurtri par deux conflits mondiaux. Initier une relative prospérité, doublée d'un État-providence, le tout dans un État de droit qui garantit à chacun de vivre sa religion, sa sexualité comme il l'entend. Est-ce que c'est encore ça l'Europe aujourd'hui? Est-ce que l'Europe est à bout de souffle? Allez, Maria Popchik.
Eh bien, vous me posez une question assez piège, parce que je viens de Pologne, où actuellement l'État de droit est remis en cause par le gouvernement. Toutefois, l'Europe est présente avec certaines procédures qui visent à protéger certaines valeurs fondamentales comme l'état de droit via la Commission européenne qui a déclenché la procédure de l'article 7 qui à terme pourrait imposer des sanctions au gouvernement. Donc il y a une présence, mais parfois pas suffisamment rapide. Voilà.
Alors, un point de vue polonais sur cette Europe en mouvement. David, à bout de souffle l'Europe ou pas?
Je pense que ceux qui disent que l'Europe n'est pas à bout de souffle vivent dans l'illusion, dans le monde des bisounours. Et cette Europe est aujourd'hui, à mon avis, à bout de souffle, ce qui nécessite une reconstruction de fond en comble. Et c'est aussi ce qui explique probablement des votes populistes ou en tout cas réactionnaires par rapport au système et à l'ordre établi. Et ce qui m'inquiète, c'est que les forces plus progressistes et plus européistes ont du mal à donner une réponse à ça.
Niklas.
Bah, je trouve quand même que... Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'Europe, évidemment, on a besoin d'une Europe réformée. Mais en même temps, on a quand même pas mal d'acquis. Donc, c'est quand même une Europe qui a pendant... depuis son existence... qui arrivait à mettre en place de nombreuses choses.
Je suis plutôt d'accord sur le fait que l'Europe est à bout de souffle, dans le sens où on peut se sentir un peu déconnecté de l'Europe, en tant que jeune par exemple. On sait que l'Europe, elle propose plusieurs mesures, enfin l'Union Européenne, Erasmus, service civique européen, mais on va pas connaître par exemple ces mesures. Il y a peut-être un manque de communication.
Un manque d'information sur l'Europe. Ça, c'est le travail des jeunes Européens, entre autres choses. Je reviens à cette Europe que vous m'avez définie d'un seul mot tout à l'heure. Vous avez parlé de liberté, d'unité, de voilà. Personne n'a employé le mot « l'Europe, c'est la paix ». Ça vous paraît une évidence de vivre en paix ? Moment de silence. Nicolas.
Bah, si c'est la liberté, c'est aussi la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de liberté.
Oui, d'accord, mais la paix n'impose pas forcément la liberté. On peut vivre en paix dans un pouvoir autoritaire, voire dictatorial. David.
Bah, si on n'a pas évoqué le mot paix et qu'on n'a pas effectivement réagi ou qu'il y a eu ce silence après votre question, c'est probablement parce que nous, on n'a jamais connu une situation problématique de guerre ou même simplement de remise en cause des valeurs fondamentales. Et ça explique aussi probablement le 75% de jeunes, comme vous le rappelez tout à l'heure, qui n'ont pas envie de voter en Europe. Et c'est un constat qui, effectivement, est probablement dramatique.
Corinna, cette notion de paix, alors vous êtes grec, mais d'origine albanaise, il y a eu une guerre en Albanie au moment à la fin de la partie communiste de l'Albanie. Il y a une guerre terrible en Grèce au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La paix vous paraît néanmoins une évidence ?
C'était sûrement l'objectif initial de faire une union européenne, mais je pense que à ce jour-là, il semble quand même pas être une priorité absolue, enfin un des premiers objectifs pour lesquels l'Europe lutte, si je peux dire.
Christine, un point de vue suédois. Alors, oui, la guerre en Suède, qui est un pays de consensus, la Suède, elle est relativement loin, donc la paix paraît elle aussi une évidence en Suède.
Oui, normalement, nous n'avons pas eu de guerre pendant, je sais pas, 500 ans ou quelque chose comme ça, donc.
J'allais pas m'avancer, mais je sais que
ça fait très longtemps, ça, vraiment. Donc, oui, en Suède, c'est une normalité. Je pense que l'Union européenne voit plus loin que ça maintenant. Pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu normalement la guerre. C'est, pour nous, normalement, c'est la guerre, c'est la paix après la Deuxième Guerre mondiale et il y a aucun ici qui a vécu pendant ce temps. Donc, c'est ça.
Maria Damo, une évidence finalement, la paix, qui est quand même un grand acquis de la construction européenne, oui. Qui est évidemment basée au départ sur la réconciliation franco-allemande.
Oui, mais comme a dit David, nous, les jeunes, on n'a pas vraiment connu cette Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est très important pour nos parents, pour nos grands-parents, mais pour nous, les jeunes, ce qui compte plus en Europe, c'est le concret, c'est les échanges Erasmus, c'est le marché unique, c'est la libre circulation, c'est plus ce qu'on peut sentir nous-mêmes au quotidien qui nous fait sentir européens.
Alors, Erasmus étant quand même 1% des jeunes, je crois, participent à Erasmus, hein, sur une génération. Je crois à peu près que c'est le chiffre. Hein.
Mais après, présence même des Erasmus à l'étranger dans les pays de l'UE répand cette idée européiste. Par exemple, j'ai des amis Erasmus français qui étaient en Pologne et qui ont justement expliqué l'Europe aux Polonais qui étaient sur place.
Face aux migrants, l'Europe doit-elle fermer ou non ses frontières ?
Alors, vaste question qui occupe le débat des européennes, des élections européennes, la question des frontières, où commence, où s'arrête l'Europe ? Asdin.
Moi, je pense que l'Europe, de par son histoire, est un continent très riche, très cultivé, enfin, une vraie puissance, on peut dire, avec plusieurs pays, la France, l'Allemagne, enfin, pour en citer quelques-uns. Et je pense que oui, de montrer un peu l'exemple, enfin... proposer, être solidaire, je pense, surtout contre des puissances qui le sont pas forcément, ou contre des pays qui, dans le monde, qui sont un peu autoritaires. Enfin, je pense qu'on doit un peu montrer l'exemple et être un peu plus solidaire avec les autres pays, surtout que quand, par exemple, on connaît l'histoire de la France et son histoire migratoire, qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup, beaucoup de migrants qui sont venus, qui ont rebâti, en fait, la France. Qui ont contribué, ou même pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a beaucoup de colonies françaises qui sont battues pour la France. Moi, je pense qu'on doit aussi redonner en fait ce qu'on a reçu, entre guillemets.
David Basso.
Je voulais compléter, je suis d'accord avec le constat de Hasdin, et je voulais compléter la notion de solidarité qu'il évoquait. Donc ce sur quoi on se pose la question, c'est de savoir si on a envie de fermer les frontières. D'abord, il faudrait les ouvrir au sein de l'Europe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune collaboration. Il y a des pays qui sont laissés, en fait, totalement à l'écart. Ils sont laissés tout seuls de face au phénomène migratoire, qui est un phénomène et un enjeu important. Je pense notamment à l'Italie. Et lorsqu'on a le président Macron qui dit que la politique de Matteo Salvini est à vomir, je voudrais rappeler au président Macron qu'il fait exactement la même politique d'un point de vue migratoire. Donc, qu'en quelque sorte, on lui renvoie la balle.
Christine.
Moi, je pense que c'est très bien. J'aime bien qu'il y a cet échange. Mais qu'on a vu en Suède, c'est que la partie populiste a beaucoup agrandi quand il y a beaucoup de gens qui rentrent d'autres pays. Donc, je crois que la situation en Europe, avec le populisme qui grandisse, c'est aussi un problème. Je dis pas qu'il faut fermer l'Europe, mais c'est un double problème.
Alors on peut rappeler effectivement que par habitant, c'est la Suède qui a accueilli le plus grand nombre de migrants, notamment en 2015. Corinna.
Pour moi, il faut juste trouver un consensus et trouver une ligne pour y aller et pas trouver des solutions provisoires comme la solution qui a été trouvée pour accueillir les migrants dans le premier pays d'accueil, et oui, c'est là qu'ils sont
enregistrés. Le fameux règlement de Dublin.
Et ce qui a fait que la Grèce et l'Italie ont subi le plus grand nombre. Donc il faut juste établir un équilibre et avoir une réponse claire et précise, et pour nous, et pour les migrants, pour qu'ils se déplacent pas et pour qu'ils ne fassent pas des allers-retours et qu'ils sont finalement traités comme des citoyens de deuxième zone.
Maria, vous n'êtes pas la porte-parole du gouvernement polonais, mais que dire des pays de l'Europe de l'Est qui refusent même d'en entendre parler?
Eh bien, justement, la Pologne s'est clairement opposée en 2015 à cette politique de répartition des réfugiés entre les États membres européens. Eh bien, le problème fondamental dans l'UE actuellement, c'est qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne. Et pourquoi ? Parce que, c'est d'ailleurs ce que proposent les jeunes européens, il n'y a pas de représentation de l'intérêt commun européen. Pour le moment, on est toujours dans l'intergouvernemental. Et nous, ce qu'on voudrait sur le long terme, c'est qu'il y ait une commission européenne qui représente l'intérêt européen, c'est-à-dire un président de la commission élu au suffrage universel et ensuite qui sélectionne ses commissaires pour former un réel gouvernement, mais fondé sur leur expertise, pas sur les États membres. Parce que pour le moment, on a une commission avec un commissaire par État membre, donc forcément, chacun représente son pays et on n'est pas d'accord.
Je retiens l'idée que, en gros, l'Europe peut mieux faire sur le sujet. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort de ce petit tour de table. L'Europe, il y a 70 ans, était au centre du monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il y a toujours les États-Unis, plus imprévisibles que jamais avec Donald Trump. Et puis, la montée en force des puissances émergentes, en premier lieu la Chine, mais pas seulement. On pourrait citer l'Inde, la Corée, pourquoi pas la Russie ou le Brésil. L'Europe, qui est le plus grand marché du monde, fait-elle preuve de naïveté à l'égard de ces puissances émergentes? Qui veut réagir? David, puis Hasdin.
Il y a une phrase qui me vient à l'esprit lorsque vous posez votre question. C'est la phrase d'Enrico Letta, qui était président du Conseil italien et qui aujourd'hui est un prestigieux professeur à Sciences Po, qui dit « En Europe, il y a d'un côté les petits pays et de l'autre les pays qui ne savent pas qu'ils sont petits. » Donc en fait, c'est par rapport à ça que effectivement je réagis à ce que vous parlez de naïveté. C'est pas trop une naïveté de l'Europe, mais des pays qui pensent qu'en fait ils sont grands, alors qu'aujourd'hui, effectivement, face au Brésil, au Mexique qui monte, à la Chine, à la Russie et aux États-Unis, enfin, on ne voit rien. C'est un camion qui fonce sur une Smart.
Le sens de l'image, Hasdin.
Je suis d'accord avec David. Je pense qu'il y a aussi une nostalgie. Le fait que, par exemple, la France, encore une très grande histoire. On vit encore dans cette nostalgie. On se dit qu'on a encore on a un grand pays, mais on a perdu un peu de notre grandeur, justement. Enfin, je parle notamment pour la France. Et je pense que, généralement, pour les grandes puissances de l'Europe, c'est à peu près la même chose. On a peut-être du mal à admettre que on commence à être un peu en retard. Enfin, on commence, en tout cas, on est sur la route. Et je pense qu'on doit avoir un peu plus conscience de ça.
Alors, est-ce que l'Europe doit monter en puissance, la notion d'Europe puissance, est-ce que l'Europe doit être un peu plus, je vais dire, taper un peu plus du poing sur la table, Maria, qui est relativement sceptique à ma question.
Eh bien, comment dirais-je, au niveau de la représentation de l'Europe, déjà au niveau international, remarquons que les grandes puissances européennes comme la France, le Royaume-Uni, ont leur représentation au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne n'est pas représentée dans cette instance tout de même essentielle à la sécurité mondiale.
L'Union n'est pas un pays, donc à l'ONU, ce sont les pays qui sont
représentés.
Commençons
justement par construire une forte politique étrangère européenne pour pouvoir ensuite aspirer à une représentation au niveau international. Ce serait déjà un pas symbolique et peut-être qui donnerait suite.
Un petit mot de Nicolas sur le sujet.
Alors, je trouve que avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a une grande instabilité qui s'y crée. Et enfin, dans le monde, dans la politique, enfin dans la géopolitique en général, et je pense que l'Union européenne en tant que telle a échoué à prendre la place des États-Unis, donc à prendre la place d'un pays ou dans ce cas-là d'un continent qui défend les valeurs humanistes.
La fameuse identité européenne, les valeurs européennes qu'on n'a pas encore abordées, qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder. Une autre question, une question d'actualité.
Le Brexit, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe ?
Grand moment de scepticisme autour de la table. Allez, Maria, qui timidement a levé un petit doigt.
Je dirais que le Brexit est un moment de réflexion pour l'Europe. Parce que si on revient au référendum de 2016, ceux qui ont voté pour le Leave, ce sont pas les jeunes, ce sont les personnes âgées, les adultes qui ne sont pas tant que ça concernés par le futur du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et ça pourrait nous faire réfléchir, nous, Européens, par rapport au 26 mai. Si nous, on va pas voter, nous, jeunes, les autres vont choisir l'Europe à notre place et faudrait peut-être justement se rendre aux urnes pour que l'Europe soit réellement notre Europe et pas celle des autres, celle des générations qui sont beaucoup moins concernées.
Corinna, qui lève le doigt, elle aussi, très timidement.
Cet amalgame des mots avec le nom du pays et l'exit, ça a commencé en Grèce, en 2010,
le
où
Grexit.
On parlait de Grexit.
Et le Grexit n'a pas eu lieu.
N'a pas eu lieu, finalement, mais c'est là qu'on a réfléchi pour la première fois de combien ça aurait montré que, finalement, cette union, c'est pas aussi stable ou forte, si vous voulez. Donc, le Brexit, c'est un exemple aussi qui fait naître beaucoup d'interrogations sur les traités et le fonctionnement de l'Union européenne même.
Alors, c'est vrai que les Britanniques sont en train de découvrir que, contrairement à ce qu'ils se pensaient, je parle plus des Brexiteurs, finalement, leur lien avec le reste de l'Union européenne était beaucoup plus fort qu'ils ne l'imaginaient, David.
Je voulais juste revenir en arrière une seconde par rapport à ce qui a été évoqué. À mon avis, le Brexit a eu le mérite quand même de poser la question, de poser la préoccupation des Britanniques, de se dire, on est parmi les plus grande puissance mondiale, ou en tout cas on l'était, et on a l'impression qu'en fait cette Europe est finalement trop grande. À mon avis, ça pose la question de l'Europe à 27. Alors je ne dis pas que c'est la solution, c'est de 27, c'était 28. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où par un petit délire de grandeur, on a un peu fait arriver un peu trop de pays qui, d'un point de vue économique notamment, mais aussi d'un point de vue d'état de droit, etc., pouvait poser un problème par rapport au fonctionnement de l'Europe. Donc je pense que c'est ça qui ressort du Brexit aujourd'hui.
Juste une réaction de Nicolas, parce qu'on arrive au terme de la première partie de cette émission.
Si on peut en tirer une bonne chose du Brexit, c'est que plus aucun parti parle du n'importe quel exit. Par exemple, l'AFD en Allemagne, sortir de l'Union Européenne, c'est mort. Italexit, personne n'en parle plus.
Elle est un mot, Christine.
Ah oui, je veux juste dire que c'est la même chose en Suède. On avait pas très grands partis, mais des grands partis qui voulaient tous les deux quitter l'Union européenne. Et maintenant, pour notre élection l'année dernière, ils ont complètement changé. Et maintenant, on peut plus gagner des votes avec cette narrative.
Et c'est vrai aussi en France, où la France insoumise et le Rassemblement national ont changé leur discours sur l'Europe. Ils voulaient quitter l'euro et l'Europe, et maintenant ils sont pour le moins beaucoup plus mesurés. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiejąc tę Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Ils sont jeunes et l'Europe leur appartient. À quelques semaines des élections européennes, qu'attendent-ils de l'Union européenne? Et d'abord, en attendent-ils quelque chose, sachant que 74% des 18-24 ans disent qu'ils ne voteront pas le 26 mai prochain. Ce qui, paradoxe ou non, ne les empêche pas de se sentir européens. Le réchauffement climatique est-il leur priorité, comme semblent l'indiquer les enquêtes d'opinion? La génération Erasmus connaît-elle les autres pays européens? La montée des populismes et la tentation des pouvoirs autoritaires de par le monde les inquiète-t-il? Perçoivent-ils l'Europe comme une chance ou une contrainte? Ils sont 6 autour des micros de Carrefour de l'Europe dans le studio 42 de RFI. Je vous les représente rapidement. Maria Popsik, elle est franco-polonaise et membre du mouvement des jeunes européens. Corina Drichti est étudiante grecque. Asdine El-Mourabé est étudiante française. Christine Bostrom-Le Guillaume est étudiante franco-suédoise, mais plutôt suédoise que française. Niklas Munch est étudiant allemand et jeune ambassadeur franco-allemand auprès de l'OFA, l'Office franco-allemand de la jeunesse, et David Basso est étudiant franco-italien et plutôt italien que français. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Benjamin Morante.
Bonjour Daniel.
C'est un éditorial d'El País, le grand quotidien de Madrid, qui vous a inspiré cette semaine. En quelques phrases, l'éditorialiste Francisco Basterra invite les Européens et notamment les jeunes Européens à s'intéresser de plus près à l'Europe qui a déjà fait beaucoup.
Oui, alors l'éditorialiste commence par une citation très originale, en fait, puisque le journaliste Francisco Basterra cite l'écrivain anglais Lewis Carroll, qui est l'auteur du très célèbre Alice au Pays des Merveilles, pour dire, j'ouvre les guillemets, qu'une mémoire qui n'opère que dans le passé n'a rien de bien fameux. Par cette citation, en fait, l'auteur souligne que l'Union européenne, si elle veut survivre, ne peut pas seulement regarder au passé et s'enorgueillir de ses aboutissements, mais elle doit parler aux nouvelles générations. Alors, de quelle façon, me direz-vous ? L'éditorialiste d'El País reconnaît que l'Union européenne a déjà fait beaucoup pour ses citoyens, pour améliorer leur vie, mais pour percer dans le cœur des jeunes, elle doit faire encore quelque chose d'autre, et se lancer dans un défi qu'elle n'a pas encore réussi à compléter, à savoir réduire les disparités économiques entre les pays du nord de l'Europe et ceux du sud et de l'est. Voilà qui ferait une belle histoire, selon Francisco Basterra. Évidemment, selon l'éditorialiste, la relation entre les jeunes et l'Union ne doit pas être à sens unique. Et Francisco Basterra insiste pour que les nouvelles générations se rendent aux urnes du 23 au 26 mai, qui est le rendez-vous des Européennes. Mais, comme le dit Francisco Basterra, ceci n'avait pas été le cas, comme le rappelle l'article, lors du référendum sur le Brexit. En effet, beaucoup de jeunes s'étaient abstenus à cette occasion et avaient donc laissé en quelque sorte décider les plus anciens pour eux. Et on sait comment le vote sur le Brexit s'est terminé. Dans la conclusion de l'article, l'auteur rappelle que pour battre les populismes, les jeunes européens peuvent faire la différence. Mais en paraphrasant le fameux appel lancé par Kennedy le jour de son investiture, l'auteur dit que les jeunes ne doivent pas se demander ce que l'Europe peut faire pour eux, mais ce que eux peuvent faire pour l'Europe.
Alors que pouvez-vous faire pour l'Europe ? Maria.
Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que pour moi, l'Europe, c'était l'idée de réseau. Eh bien, les jeunes Européens sont un réseau. Où que l'on soit en Europe, on est présent, on intervient aussi bien dans nos universités, dans les villes, on va dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Europe ? Transmettre déjà notre enthousiasme pour tout ce qu'on gagne en étant membre de l'Union Européenne. Et donc, on parle avec les enfants, on parle avec les personnes âgées, on diffuse des informations sur les réseaux sociaux. Voilà déjà ce qu'on peut faire pour l'Europe.
Christine, que pouvez-vous faire, vous, pour l'Europe ?
Je suis complètement d'accord avec Maria. Je pense que la chose la plus importante, c'est de voter et de s'intéresser à ce que fait l'Union européenne.
Niklas ?
J'aurais tout simplement dit s'engager. Et je pense que David Basso pourra encore en parler.
Bah, juste à moi, David Basso.
Enfin, tout à l'heure, vous avez parlé dans votre introduction de génération Erasmus, mais on a aussi compris que la génération Erasmus, eh bien, c'est 1% des jeunes européens. On a, bah, par exemple, le mouvement des jeunes européens qui opère probablement pour diffuser cette idée d'Europe, etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, on est en train de parler de jeunes de centre-ville, on est en train de parler de petits bobos qui font des études et qui ont la chance de pouvoir se payer des études à l'étranger, etc., dont je fais partie, hein, c'est une autocritique, c'est pas du tout, c'est une chance, mais enfin il faut aussi savoir que bah, que ce soit au fin de fond de l'Italie, de là où d'où je viens, ou bien j'imagine dans chacun de vos pays, bien il y a des jeunes pour lesquels leur préoccupation c'est enfin n'est pas de savoir si l'Europe a voté telle ou telle directive, mais est plutôt de savoir bah est-ce que ce soir je vais pouvoir manger, ou bien est-ce que bah enfin il y a des problèmes qui sont autres et qui n'inquiètent pas forcément tout le monde de la même manière, et à travers une Europe plus proche et plus sociale, probablement là on arriverait à intervenir sur cette population là qui aujourd'hui n'est pas du tout concernée.
Hasdine.
Je suis complètement d'accord avec David, je pense que l'Europe, il y a un aspect un peu élitiste, entre guillemets, parce que, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai appris tout ce qui est institution européenne quand j'étais en terminale ES, donc déjà, faut être en général en ES, ou même quand on est en droit, quand on est en IEP, enfin, c'est vraiment une partie, en fait, des jeunes qui vont, qu'on va leur donner l'opportunité de connaître des connaissances sur l'Europe, et c'est pas l'ensemble. Du coup, comment on peut s'intéresser à quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on donne pas accès de connaître, en fait? Et je pense que, pour moi, c'est vraiment de rapprocher. C'est pas aux jeunes de s'intéresser à l'Europe, mais c'est plutôt à l'Europe de s'intéresser, pas de s'intéresser aux jeunes, mais de se rendre intéressant. De se donner les clés, en fait, de s'intéresser.
Corinne, vous vouliez réagir?
Oui, juste pour, par rapport à mon pays, c'est même pas l'indifférence la Grèce ou le non-accès à l'information. C'est peut-être le contraire même. Parce que moi, je fais partie d'une génération qui a eu sur son dos, si je peux dire, 3 mémorandums. Donc on le voit avec un a priori, avec un préjugé de mauvais œil. D'une union qui essaie de nous contrôler ou de nous imposer des choses. Et en Grèce, il y a le double travail à faire, et pour informer les gens, enfin la jeunesse surtout, et pour rendre accessible finalement le travail de l'union.
Alors, entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest de l'Europe, il y a de grandes inégalités, notamment économiques. Est-ce que vous direz que l'appartenance à l'Union européenne combat ces inégalités ou pas?
Du moins, elle cherche à le faire. C'est-à-dire que c'est la raison même de l'Union, c'est d'essayer de développer les zones les plus en difficulté, etc. Après, il faut aussi prendre conscience du fait que il va falloir que le futur Parlement européen et la future Commission prennent leur courage à deux mains, et qu'il y ait une vraie harmonisation fiscale, et qu'il y ait une vraie harmonisation au niveau d'un salaire minimum au niveau européen, parce qu'il y a une concurrence qui est déloyale au rabais qui est faite par les pays, notamment peut-être de l'Est et du Sud, et aussi au niveau des par exemple des droits sociaux, des acquis de droits du travail, etc. Enfin, il n'est pas normal qu'il y ait des pays dans lesquels on cotise vraiment énormément d'argent, et d'autres dans lesquels il y a des cotisations qui sont même beaucoup plus faibles. Enfin, ça fait partie d'un tout qui on n'aura pas une union qui est vraiment unie tant qu'il n'y aura pas d'unité sur ces sujets-là, qui sont ceux de la vie concrète des gens.
Pour vous, d'un mot, l'Europe, c'est une chance ou une contrainte?
Une chance, je pense, au niveau de ce qu'elle propose.
Maria, bien évidemment aussi, j'imagine.
Bien évidemment, une extension de notre identité.
Alors même si vous êtes plutôt des jeunes Européens, on va dire, David disait des déjà boboisés. donc c'est vrai que vous n'êtes pas forcément représentatif de l'ensemble des jeunes Européens, mais enfin, voilà, vous êtes là, c'est vous qui êtes là. David, plutôt une chance, évidemment.
Pour moi, c'est une chance et surtout un espoir. Mais je constate aussi que je la critique beaucoup. Mais c'est pour que ça change.
C'est parce que vous l'aimez énormément.
Exactement.
Corinna.
Une grande chance, mais qu'on doit la garder comme ça dans notre esprit et ne pas, et continuer à l'améliorer, cette chance.
Nicolas.
Bah, évidemment, c'est une chance et c'est un espoir aussi. Donc, on est évidemment, comme David l'a dit, europhile, mais à la fois eurocritique.
Et Christine.
Moi aussi, une chance, bien sûr, mais, comme les autres a dit, il faut qu'il y ait des réformes pour changer l'Europe et pour vraiment le rapprocher à les jeunes.
Et on aura notre chance de voter le 26 mai.
Le 26 mai, qu'on se le dise. Une nouvelle question.
Le climat et la lutte contre le réchauffement de la planète, une priorité pour l'Europe?
Alors, les sondages d'opinion mettent en évidence que c'est la préoccupation première des jeunes. Est-ce le cas pour vous, Hasdine, ou...
Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients, en fait, de ce qui se passe au niveau de la planète, au niveau du climat. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est sur Twitter, déjà. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de... au niveau des rassemblements aussi. Et, ben ouais, enfin, pour moi, c'est ma priorité, je pense. Parce que les personnes un peu plus qui nous représentent sont beaucoup plus âgées que nous. Et il y en a qui se rendent pas compte en fait que c'est nous qui allons vivre demain. C'est notre planète. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose que nous, jeunes, on soit conscient de ça, puisque les plus âgés, ben, malheureusement, certains, ils sont pas forcément...
Alors, parmi certains, il y a Donald Trump, hein. C'est évidemment, il compte pas pour du beurre, comme on peut dire de manière un peu familière. Christine.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, je pense qu'on voit que les jeunes, notre âge, ils sont, c'est très important pour nous, mais aussi pour les plus jeunes que nous, on voit qu'il y a beaucoup d'engagement pour vraiment voir qu'on change notre vie.
David, est-ce que l'Europe, c'est le bon niveau pour envisager un problème comme celui-ci, le réchauffement de la planète ?
Ah bah totalement. C'est même probablement le niveau sur lequel il faut intervenir. Je disais tout à l'heure, effectivement, ce sont des États qui sont globalement petits, même au niveau d'habitants. On a une consommation qui est quasiment ridicule par rapport à la Chine ou à n'importe quel autre pays. Donc le niveau européen est sans doute le niveau sur lequel il faut intervenir de manière active, hein, à travers une législation efficace, etc.
Et Maria.
Là, je mets ma casquette de polonaise et je vais vous dire que même en Pologne, pays très connu pour ses centrales à charbon, il y a une prise de conscience. Les jeunes veulent sortir de cette ère de charbon et en ont assez de cette ère polluée. Et il y a même un nouveau parti politique qui base son programme sur la sortie du charbon en 2030. Donc vraiment, il y a un changement en cours.
Et qui s'appelle comment ce parti ? Je ne le connais pas.
Il s'appelle le Printemps.
Le Printemps.
Wiosna, oui.
Wiosna. Encore une question.
Les GAFA ne payent pas d'impôts, ou très peu. Que faire ?
Alors David, vous aviez un peu abordé le sujet, mais je voulais le garder un peu en réserve, parce que je savais qu'il y avait une question qui allait venir sur le sujet. C'est vrai que c'est un problème quand même, la fiscalité en Europe. Est-ce que c'est un problème pour vous ? Voilà, c'est un problème qui évidemment occupe beaucoup dans cette campagne électorale. Les GAFA, c'est-à-dire les grandes entreprises multinationales du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon, et puis on pourra ajouter Microsoft et quelques autres encore, ne payent pas d'impôts, ou très peu. Cette optimisation fiscale, comme on dit quand on est très très poli, ça pose un problème à l'Europe et aux Européens. Est-ce que c'est un problème un peu technique dont vous êtes conscient ou pas ? David.
C'est un problème qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que les premiers paradis fiscaux sont, ou en tout cas les personnes qui négocient avec les GAFA pour leur donner des taux extrêmement avantageux, c'est qui ? Eh bien, c'est l'Irlande et le Luxembourg. Et donc, c'est évident qu'il va rien se passer si ça vient de l'intérieur. Si c'était juste les îles Marshall ou je ne sais qui, on aurait déjà résolu le problème. Là, évidemment qu'il n'y a pas du tout de problèmes qui sont résolus.
Corinna,
Et il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises qui se sont fondées aux États-Unis et où ils ont et une fiscalité beaucoup plus élevée et c'est un pays, les États-Unis, où il n'existe pas la neutralité du net, ou pas aujourd'hui.
Alors on peut aller au-delà de la fiscalité, cette tendance à l'ubérisation du monde et donc à une certaine précarité, est-ce que l'Europe a son mot à dire ? Est-ce que évidemment l'Europe qui a inventé l'État-providence et le fait que lorsqu'on est malade et lorsqu'on va à l'hôpital, on présente, en France on appelle ça une carte vitale, je sais pas comment ça s'appelle dans vos pays, mais ça existe à peu près de la même façon, alors qu'aux États-Unis on présente sa carte de crédit, sa carte de paiement, c'est évidemment une différence, une façon d'envisager le monde que l'Europe a construit, a bâti solidement, qui est évidemment un peu remis en cause par cette ubérisation du monde. Quel rôle peut jouer l'Europe selon vous, si vous avez une petite idée? Asdine.
Peut-être préserver justement cet État-providence et, encore une fois, je veux dire pas donner l'exemple, mais c'est ce qui nous rend différents, en fait. C'est ce que je dis, par exemple, je vais pas aller aux États-Unis parce qu'en France, je vis beaucoup mieux en termes de coût d'études et pour la santé. Et voilà, on doit préserver ça, puisque c'est ça notre principale différence, c'est le niveau de vie, je dirais.
Qui veut réagir à cette fiscalité ou précarité, ubérisation du monde, Nicolas?
Oui, sur la fiscalité. Je pense que, en fait, c'est un manque de solidarité. Donc, c'est que il y a certains États, notamment l'Allemagne, faut le dire, qui veulent pas taxer les GAFA parce qu'ils ont des intérêts pour leur pays à eux. Et ça va pas, je trouve. Je pense que il faut avoir, si on a une union, il faut avoir une union solidaire surtout, et dire, si on les taxe, on assume en tant que l'Europe, et pas seulement en tant qu'Allemagne, mais aussi l'inverse. Donc,
Voilà. C'est vrai qu'il y avait un processus pour taxer les GAFA au niveau européen et que ce processus a été remis en cause notamment par Angela Merkel qui a préféré, semble-t-il, sauvegarder les exportations de Mercedes et de BMW plutôt que de taxer les GAFA, ce qui pose évidemment un problème sur la marche de l'Europe. Une réaction encore sur le sujet ? On passe à autre chose, Maria ?
Juste pour commenter, Nicolas, c'était très fédéraliste ce que tu as dit, donc les jeunes européens sont tout à fait d'accord, il faut plus de politique commune aux États en cette matière.
C'est presque la dernière question.
Dans les livres d'histoire, on apprend l'histoire de son pays, très rarement l'histoire de l'Europe.
C'est vrai que ce que vous connaissez de l'histoire de l'Europe les uns les autres, bah forcément un peu parce que vous êtes, on l'entend bien, des Européens assez convaincus, mais c'est quand même un problème. On apprend l'histoire d'Allemagne quand on est allemand, l'histoire de l'Italie lorsqu'on est italien, évidemment l'histoire de France lorsqu'on est français, et pas l'histoire de la construction européenne. Il n'y a pas ces rapports entre dans les livres d'histoire, c'est les Français qui ont écrasé les Allemands, c'est les Italiens qui ont passé les Alpes, etc., etc. Comment former des citoyens européens lorsqu'on apprend une histoire nationale ? Maria.
Oui, merci. Eh bien, la preuve, oui, les programmes sont incomplets en termes européens, à tel point que les jeunes européens sont autorisés, on va dire, par le ministère de l'Éducation nationale pour intervenir et transmettre ça entre pairs. C'est-à-dire, les jeunes passent 2 ou 4 heures dans les classes pour faire un topo sur l'Europe, présenter la carte, présenter un peu l'histoire de l'intégration. Et ça manque. On voit que les jeunes ne sont pas trop au courant de ce qui se passe.
Altine.
Après, il y a le souci pratique dans le sens où... Le professeur n'a jamais le temps de finir son programme. Du coup, si on rajoute, entre guillemets...
Mais on peut changer les programmes.
On peut changer, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut donner des cours, entre guillemets, sur la construction européenne. Et je pense le plus tôt possible, puisque comme je l'ai dit, ça intervient plutôt quand on est dans une filière précise. Et encore une fois, du coup, si on n'est pas dans une filière en général, par exemple, on n'aura pas cet accès à l'histoire européenne. Et moi, je pense en fait qu'il faut revoir directement tout le programme. Et augmenter l'enjeu, en fait, se dire que c'est important de connaître l'histoire de l'Europe, puisqu'on est européen, du coup.
Nicolas, c'est vrai qu'il y a eu, il y a quelques années, la tentative d'un manuel d'histoire franco-allemand, c'est peut-être ce que vous vouliez dire.
Justement, ouais. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il nous faudrait justement un manuel d'histoire européen, sauf que je connais un peu l'histoire du manuel franco-allemand, et ça a créé pas mal de bruit, et... Malheureusement, il faut être réaliste, et c'est une vision assez pessimiste, que ça a déjà créé des problèmes avec le franco-allemand. Donc, qu'est-ce que ça va créer dans l'européen?
C'est vrai que pour prendre trois exemples dans le franco-allemand, Charlemagne, c'est par définition un empereur français en France, allemand en France, on est en Allemagne.
Français.
Comment?
Il est français, lui, Charlemagne.
Pour les Français,
avec la chapelle,
c'est ce qu'on apprend.
Voilà, justement, c'est ça le problème, monsieur Desesquel, c'est quand... Déjà, entre deux pays, on a du mal à se comprendre. Est-ce que, justement, Charlemagne, il a été français ou allemand?
Alors, évidemment, Napoléon, il y a des visions différentes lorsqu'on est français ou allemand. Et puis, on pourrait maximiser les exemples avec la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Deux petites questions à Christine, la Suédoise, et à Corinna, la Grecque. Dans vos livres d'histoire, on apprend uniquement de l'histoire suédoise et de l'histoire grecque, Christine?
Moi, je dirais non. Je sais pas, c'est parce que on est un petit pays, mais bien sûr, j'ai appris l'histoire avec les rois suédoises, mais j'ai aussi appris la révolution française, la révolution industrielle, des choses comme ça. Plutôt des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne un petit peu, pas autant les pays de l'Est, oui, l'Union soviétique, mais pas autant... Donc ça, en Suède, on n'a pas beaucoup. Mais je pense quand même en Suède, on apprend l'histoire européenne, mais on n'apprend pas vraiment l'histoire de l'Union européenne.
Corinna.
C'est pareil en Grèce. On se centre plutôt sur la Grèce et ou sur les Balkans. Et il faudra aussi, dans un certain niveau, mettre une histoire plus vaste, un cours d'histoire plus vaste et de l'Union. Pas au niveau géographique seulement.
Je sais plus qui a dit ça, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé. On a construit l'Europe, reste à inventer les Européens. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ça fait sourire David.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a créé de manière un peu artificielle cette notion de citoyenneté européenne. Enfin, en réalité, on l'a greffée sur les nationalités, sur les nationalités nationales. Et donc, oui, je pense que, enfin, c'est une vision assez lucide. L'Europe, finalement, tout ce qui se fait à travers la loi ou à travers, une action gouvernementale, quelque chose qu'on peut écrire sur un papier, se fait globalement assez facilement. Après, effectivement, faire naître le sentiment, ça c'est beaucoup plus dur.
Asdine.
Je suis d'accord sur cette identité européenne, en fait, de se dire faudrait se sentir européen, et c'est compliqué quand on sait par exemple que le principal moyen de cimenter cette citoyenneté européenne, c'est Erasmus, et la moyenne d'âge, elle est de 23 ans, donc c'est assez tard pour se sentir européen finalement. Et même par exemple dans mon cas, l'Europe c'est pas mon
19 ans.
Dans mon cas, l'Europe c'est pas mon continent, enfin de base moi je suis algérien, et quand on voit tout ce climat en France ou dans d'autres pays par exemple où il y a du racisme, de l'islamophobie, c'est déjà difficile par moment pour certains de se sentir français par exemple. Alors se sentir européen, c'est peut-être se projeter aussi trop loin. Enfin, c'est compliqué de se visualiser et de se sentir européen finalement quand on est d'immigration.
Qui veut rebondir?
Oui.
Maria.
Oui, par rapport à cette difficulté à se visualiser en tant qu'Européen, justement, parmi les 20 propositions qu'on a préparées dans le cadre de notre campagne Mon Vote, Mon Europe avec les jeunes européens, il y a la proposition de rendre obligatoire la mobilité en Europe pour tous les jeunes. Ce qui permettrait justement de mieux comprendre ce qu'il se passe dans les autres pays et de vraiment comprendre l'identité européenne comme une extension de notre identité nationale, locale, régionale.
L'avant-dernière question, c'est une éternelle question, faut-il plus ou moins d'Europe, David?
Moi, je pense qu'il faut plus d'Europe, et il faut plus d'Europe dans le sens où aujourd'hui on a par exemple un Parlement qui, d'accord, est représentatif, etc. Mais on l'aurait rappelé tout à l'heure, on a un commissaire par pays, on n'a pas un commissaire par compétence, ou bien même par rapport au fait. Enfin, moi, je verrais bien l'idée de une sorte de Sénat de l'Europe. Alors, ça ferait trembler n'importe quel eurocrate qui perd de son pouvoir. Mais
un Sénat pour quoi faire?
Un Sénat pour un peu contrebalancer, pour dire, par exemple. On a une institution qui est totalement représentative, qui est celle du Parlement européen. Et pourquoi pas quelque chose de plus équitable, un peu sur la base du fonctionnement du Sénat dans les différents pays qui connaissent un système parlementaire, de dire, par exemple, le même nombre de représentants pour chaque pays, quelque chose de ce type, avec peut-être un rôle consultatif pour dire. Et là, on aurait quelque chose de vraiment plus proche de territoire. C'est-à-dire que ça veut dire que toutes les régions, peut-être avec moins de population et un peu plus en difficulté, serait mieux représenté, et pourquoi pas à travers, je sais pas, des élus locaux, enfin là je dis n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas, qui montrait justement, je sais pas, une fois par mois en Europe en disant non, il faut pas faire ça. Alors, ou au contraire.
Un petit mot de Maria, parce qu'à cette question, faut-il plus ou moins d'Europe? Évidemment, elle adore cette question, elle va répondre oui avec les deux mains. D'un mot, pourquoi plus d'Europe pour vous?
Justement, parce qu'on a vu tous les problèmes qui existaient au niveau international et que les pays à eux-mêmes sont incapables de résoudre, le problème climatique, le problème fiscal, le problème des migrations. Donc il faut plus d'Europe rien que pour ça, pour aussi plus d'égalité entre les États membres, qui cette égalité n'existe toujours pas. Donc voilà.
Allez, c'est la dernière question.
Donnez-moi une bonne raison de voter aux élections européennes.
Alors, on va refaire un petit tour de table. Et on commence par qui? Asdine, qui a 19 ans, donc ce sera la première fois qu'il ira voter, peut-être.
Oui, ça va être la première fois que je vais voter. Du coup, je pense que pour moi, ma bonne raison, c'est puisque ça va être mon premier vote, je pense.
Maria, une bonne raison d'aller voter?
Toujours dans le cadre de notre campagne Mon Vote, Mon Europe, on a ce qu'on appelle le...
Elle est militante, Maria.
Réagit et revote. C'est-à-dire qu'on se promène dans les rues et on montre des citations d'eurodéputés du mandat actuel. Par exemple, ceux qui ont des propos sexistes, qui choquent un petit peu la population. Et on dit, si vous voulez vraiment que l'Europe vous représente, allez voter et laissez pas les autres voter à votre place et choisir des personnes qui ne vous correspondent pas.
David.
Une bonne raison pour aller voter, oui. Parce que sinon c'est la catastrophe. C'est par rapport à ce que disait Maria très justement tout à l'heure, elle a énuméré le réchauffement climatique, la fiscalité et tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, c'est la seule manière de vraiment agir et de vraiment survivre, parce qu'en fait maintenant c'est ça l'enjeu. C'est que si on a envie d'avoir encore un état providence, eh bien il faut une fiscalité qui soit juste, et c'est comme on l'a dit, uniquement au niveau européen. Et pareil pour le réchauffement climatique.
Alors, en France, on va voter le dimanche 26 mai. Ce sera aussi le cas en Grèce?
C'est entre le 23 et le 26, mais je ne sais pas la date exacte qui a été retenue.
En Grèce. Encore. Alors, c'est vrai que c'est entre le 23 et le 26, selon les différents
pays. Mais en Grèce, c'est très intéressant parce qu'il y a les élections présidentielles en même temps. Et ça va jouer
beaucoup. Le même jour?
C'est pas encore choisi si ce sera le même jour ou un peu plus tard.
Alors, une bonne raison pour aller voter?
Parce que ça nous concerne, parce que l'Union européenne intervient dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au niveau environnemental, social, dans la protection des données personnelles et beaucoup d'autres choses.
Nicolas.
Alors, tout a été dit. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Donc, il me reste à dire que... Alors, pourquoi faudrait-il aller voter? Pourquoi pas? Le 26 mai, il fera forcément beau. Et une petite balade, ça fait jamais du mal. Donc, c'est très simple. Oui. Mais à vrai dire, si on se balade déjà le 26 mai, on peut aussi aller voter.
Alors en France, on dit que quand il fait beau, on va plutôt à la pêche qu'en direction du bureau de vote. Ça, c'est
Vous pouvez faire les deux. Vous prenez vos affaires de pêche et vous allez dans le bureau de vote.
Et puis, on termine avec Christine. Une bonne raison d'aller voter.
Ah oui, c'est une bonne réponse. Et je dis que c'est vraiment le pouvoir du peuple. De voter, de voir la change que vous voulez voir dans l'Europe, c'est d'aller voter pour les gens que vous voulez voir dans le Parlement européen.
Alors c'est vrai que de par le monde, on vote pas partout. Des fois, on vote pour un seul parti, un seul candidat, voilà. Et de par le monde, il y a beaucoup de gens qui se battent pour justement pouvoir voter. On peut voter en France et dans les 28 pays d'Europe, puisque les Britanniques vont voter aussi, de manière un peu paradoxale et un peu surréaliste, c'est vrai. Mais quand on a la chance d'aller voter, de pouvoir voter, c'est toujours bien de voter et de prendre son destin en main. Merci à tous les six d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, avec Beniamino Morand de Courrier International et la complicité de Béatrice Leveillé. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio, on reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Ezesquel, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.